France Info.
Bonsoir les informés de France Info, c'est votre heure de débat à la radio, France Info la télévision, vous savez, le canal 27 de la TNT, France Info les réseaux sociaux et franceinfo.fr, notre site d'information. Sommaire, les gilets jaunes, 9e samedi de mobilisation, au moins 84 000 manifestants en France, des échauffourées, mais a priori pas de gros débordements. Et puis nous reviendrons sur cette explosion accidentelle ce matin à Paris, un immeuble dévasté par une explosion due au gaz. 3 morts, dont 2 pompiers, 10 blessés en urgence absolue. On parlera tout à l'heure de la notion de sacrifice, de la notion d'héroïsme. Alors pour commenter cette actualité et apporter du sens à l'information, j'accueille sur ce plateau 2 philosophes, une communicante et un journaliste. Bonsoir Cynthia Fleury. Philosophe, psychanalyste, bonsoir Gilles Verviche.
Bonsoir.
Agrégé de philosophie, vous publiez ces jours-ci, peut-on réussir sans effort ni aucun talent? Les mirages du mérite aux éditions Le Passeur. Vous êtes aussi, je le rappelle, l'auteur de Quelques grammes de philo dans un monde de pub, Le secret de Platon ou encore Star Wars, la philo contre-attaque. Bonsoir Céline Boisson.
Bonsoir.
Directrice de l'agence de conseil en communication et stratégie Nude. Et bonsoir également Étienne Girard, journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne. Alors on ouvre le premier débat de ces informés de France Info sur cette 9e journée de mobilisation, de manifestation des Gilets jaunes. Ambiance festive, mais aussi des heurts, des cortèges qui se terminent dans la confusion à Bordeaux, à Rennes, à Bourges ou encore à Strasbourg et Paris. Toujours les mêmes slogans entendus. Premier enseignement de cette journée, je m'adresse à vous, Céline Boisson. On peut dire qu'il y a autant de monde, 84 000 personnes selon les chiffres officiels du ministère. Cela veut dire que la mobilisation ne faiblit pas malgré ce début d'année ?
Non, je pense pas. Je pense que la mobilisation ne faiblit pas. Les gilets jaunes sont endurants. Je pense même que ça va finalement durer hein, les prochaines semaines. On a entendu parler du dimanche 27 janvier avec la marche des foulards rouges qui est du coup une réaction en fait et un autre mouvement par rapport aux gilets jaunes qui laisse du coup présager que les gilets jaunes vont continuer en tous les cas jusqu'à fin janvier. Donc non, je pense qu'ils ont encore des choses à dire. Le débat national va commencer mardi et ça risque de relancer certains débats, certaines choses.
Le regard du journaliste Étienne Girard, Marianne.
Oui,
comment expliquer on disait que ça allait peut-être s'éteindre, cette mobilisation, et puis visiblement, il y a plus de monde dans les rues que le samedi dernier,
absolument.
Selon les chiffres officiels.
Selon les chiffres officiels, c'est en train de se stabiliser depuis maintenant au moins 4 ou 5 samedis, entre 50 000 et 100 000 manifestants, ce qui n'est pas une manifestation d'ampleur nationale de masse. Dans notre pays, on a vu des manifestations beaucoup plus importantes.
Mais là, c'est éparpillé.
On a un socle éparpillé, voilà. Assez important, endurant, de gens qui ne lâchent pas l'affaire, si je puis dire, de samedi en samedi. Donc, c'est quelque chose de très important. En même temps, on a un soutien à ce mouvement-là qui s'étiole un peu, mais qui s'étiole pas tellement. On a toujours 52% des gens qui affirment vouloir que le mouvement se poursuit.
Alors, vous venez de dire quelque chose d'important, Cynthia Fleury. On ne lâche rien, c'est ce que l'on entend dans les manifestations, notamment comme slogan. Mais effectivement, on le constate dans le nombre de manifestants, on ne lâche rien.
Oui, on lâche rien. Maintenant, en revanche, on commence à voir un tout petit peu plus clair. Il suffit de regarder d'ailleurs comment la presse étrangère traite le mouvement des Gilets jaunes. Ils sont quand même beaucoup plus durs, je dirais, que nous dans la définition de ce mouvement, parce que c'est plus caricatural, mais il y a quand même, quand on va sur, que ce soit sur les ronds-points ou quand on prend à partie, quand on interroge les gilets jaunes, vous avez une hostilité et une agressivité qui est quand même extraordinairement présente et qui, en plus, tous les jours, prend à partie des journalistes, des élus, même des maires. Souvent, on a dit les maires sont à l'abri, etc. C'est pas toujours le cas. Donc, vous avez une scission entre ceux qui sont prêts à instrumentaliser la violence, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette violence, mais qui, tout de même, par une sorte de consentement à la violence, laisse faire. Et donc, moi, je suis quand même très, très inquiète sur ce côté à la fois autoritariste qui est très présent. Et vous avez une vraie scission entre ceux qui, si vous voulez, pensent la possibilité éventuellement avec le grand débat national de dire, bah, tiens, voilà une occasion, voilà une possibilité de réfléchir à une évolution de la Ve République, pour aller un peu court, avec le RIC, avec de la proportionnelle, que sais-je, avec une démocratie participative plus reconnue. Et puis, il y a ceux qui sont dans un vieux schéma de renversement. Moi, j'entends régulièrement les Gilets jaunes me dire, on va couper la tête de Macron. C'est-à-dire, c'est surréaliste d'entendre ce genre de choses, mais je l'entends.
On va au palais comme on va à Versailles.
Voilà, c'est-à-dire cet imaginaire, si vous voulez, cette fantasmatique-là. Oui, révolutionnaire, mais autoritariste. C'est-à-dire qu'on remplacerait une tête par une autre et ça changerait quelque chose. Ce qui est absolument délirant. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu ça et on va voir dans, et je crois pas du tout qu'il va y avoir un phénomène d'usure. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Je vais vous donner la parole, hein, Gilles Verbiche. Restez avec nous. Mais, Étienne Girard, on a évoqué avec Cynthia Fleury, ces agressions dont les maires sont aussi victimes, les élus et aussi les journalistes. Il y a encore eu des journalistes agressés aujourd'hui.
Oui, à Rouen, il y a deux journalistes de LCI qui ont été lynchés. Les images sont sur Internet, triste image. Lynchés par un groupe d'à peu près 20 personnes. Des coups de pied, roués de coups de pied à terre. Là, on n'est plus dans la revendication politique.
Et
quand on fait ça, on n'est d'ailleurs même plus des gilets jaunes. Quand on est 20 et qu'on tape une personne par terre, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit un journaliste, un élu ou un simple civil, on est une bande de voyous. Donc ce mouvement, il est... En fait, il n'y a pas un mouvement. Il n'y a pas un mouvement des gilets jaunes. C'est les mouvements des gilets jaunes. Et dans ce mouvement, il y a des révolutionnaires, en effet, des ultra-violents, des ultra-gauches, des ultra-droites, et puis des gens qui ne veulent pas renverser le président de la République, qui veulent simplement vivre un peu mieux, qui demandent de la justice sociale, de la justice fiscale.
On va poursuivre ce débat très intéressant sur la violence avec vous, Gilles. Je vais vous donner la parole, mais avant cela, à 20h10, on fait un point sur l'info avec vous, Emmanuel Gravet.
La préfecture de police annonce que 24 personnes ont été blessées aujourd'hui à Paris pendant les manifestations des Gilets jaunes. Deux le sont grièvement, dont un membre des forces de l'ordre. Globalement, la mobilisation est en hausse. Ce samedi, le ministère de l'Intérieur a recensé au plus fort de la journée 84 000 manifestants partout en France, contre 50 000 la semaine passée. L'explosion, a priori accidentelle, d'une boulangerie ce matin à Paris a endommagé plusieurs bâtiments voisins. Ils pourraient s'écrouler à tout moment, selon le porte-parole des pompiers de Paris. 12 immeubles sont interdits d'accès, ils ont subi des dommages structurels, d'autres sont inhabitables. 130 foyers ont demandé à la mairie de leur trouver une solution de relogement. Le procureur de l'Hérault se veut prudent sur les motivations de l'homme qui a délibérément foncé sur la terrasse d'un café hier à Lattes, tout près de Montpellier. Le chauffard de 29 ans a annoncé aux pompiers vouloir faire comme au Bataclan, mais il pourrait s'agir d'un règlement de compte après un différend avec un employé du bar. En République démocratique du Congo, le camp du président sortant Joseph Kabila affirme garder le contrôle du Parlement après les élections du 30 décembre dernier. Si ce résultat était confirmé, cela contrebalancerait la victoire à la présidentielle de l'opposant Félix Tshisekedi. Cela accréditerait aussi la thèse selon laquelle les deux camps se sont entendus pour un partage du pouvoir au détriment d'un autre opposant, Martin Fayoulou. Et puis après leur victoire à l'arraché, hier en entame du Mondial de Hand en Allemagne contre le Brésil, les Bleus de nouveau sur le parquet ce soir. Deuxième match de poule face à la Serbie, c'est à suivre à partir de 20h30.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
84 000 manifestants dans toute la France à l'occasion de cette neuvième journée des Gilets jaunes, selon les chiffres officiels. Des heurts, moins de violences significatives, moins de dégradations par rapport aux autres samedis. Gilles Verlich, on a entendu un mot très important, haine, violence, des journalistes, des élus véritablement lynchés. On a vu aussi cette vidéo en début de semaine d'un gilet jaune qui s'en prend à Jean-Michel Apathy sur un ton digne de l'Inquisition. Où va-t-on?
Je pense que les gilets jaunes eux-mêmes doivent pas trop savoir où ils vont.
Parce qu'il y a plusieurs gilets jaunes.
Voilà. Il y a plusieurs gilets jaunes.
Les premières victimes de ce genre de comportement.
Ouais, ben voilà, parce que là, c'est ce que je me disais, on fait que parler de violence. Alors ceux qui au départ avaient des revendications éventuellement de niveau de vie se trouvent complètement noyés sous cette information-là. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas affaire à le gouvernement, les institutions n'ont pas affaire à des interlocuteurs habituels. D'habitude, je pense qu'on a affaire à des syndicats qui s'organisent, qui savent comment on commence et comment on finit une manifestation. Et puis là, eux-mêmes savent pas. Alors effectivement, c'est Macron démission. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Cynthia Fleury, effectivement, depuis, il y a une sorte de crise de légitimité assez étrange de la démocratie. Moi, j'ai le sentiment que depuis qu'il a été élu, Emmanuel Macron, il y a... Pourtant, c'est pas, je suis pas fan, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais
je l'ai lu dans votre livre. Voilà, on va parler de votre livre.
Mais bon, cela, mais il y a quand même.
Peut-on réussir sans effort ni aucun talent.
Voilà, on parlera peut-être de l'effort, mais il y a une petite musique quand même qu'on entend depuis même le jour de l'élection, selon laquelle il serait pas tout à fait légitime. Enfin voilà, qui a été notamment prononcée par Mélenchon, qui s'est dit à 600 000 voix près, ça aurait dû être moi, puis lui avec ses 20%, il est pas légitime. Et puis voilà, donc on a l'impression que le pouvoir, on parlait des institutions, c'est ce qu'on appelle hein, le populisme, hein, quand ce serait le peuple et puis on sait pas qui, et toutes les institutions, les corps intermédiaires seraient plus légitimes, alors je sais pas trop ce qui...
Est-ce qu'il y a un désamour de la politique, parce qu'en même temps les gilets jaunes réclament plus de démocratie, et en même temps on voit qu'il y a une défiance envers le président de la République, le gouvernement, les élus, sauf les maires. Est-ce qu'il y a un désamour de la politique?
En tous les cas, il y a des études qui parlent aujourd'hui des Français, qui parlent même de rejet ou de dégoût face à la politique. Il y a vraiment, ça va au-delà de la crise de confiance.
C'est-à-dire qu'on le baromètre, c'est l'IPOF opinionné pour Le Figaro qui est sorti hier.
Et on met du coup, on utilise des mots qui sont assez choquants, qu'on n'a d'ailleurs jamais utilisés dans le monde politique. Donc, et du coup, ça remet vraiment en question cette démocratie. C'est une atteinte à une certaine liberté qui est vraiment dangereuse aujourd'hui. Effectivement, il y a plusieurs mouvements de gilets jaunes. Je pense que c'est ce qui crée aussi ce couac, ce brouhaha, et on n'arrive pas cette ambiguïté terrible. Mais je trouve que c'est aussi un mauvais signal, hein, et notamment à l'international. Vous en parliez, Cynthia Fleury, juste tout à l'heure, où vis-à-vis de l'international, on donne vraiment une image assez négative qui va aussi avoir des conséquences, que ce soit touristiques, économiques, et qui ont déjà d'ailleurs des conséquences, mais même en termes d'image, en termes d'exemple aussi à montrer de la démocratie, le dialogue n'a plus lieu, il n'y a plus de dialogue. Et c'est ça qui devient presque dangereux, le fait qu'il y ait des manifestations, et au début que les Gilets jaunes manifester pour revendiquer des éléments sur le pouvoir d'achat, c'était tout à fait finalement légitime et compréhensible, mais on est parti de manifestations à une rupture du dialogue qui là devient pour moi un vrai danger.
Cynthia Fleury, et en plus on est dans un monde de surinformation, tout le monde a accès à la communication, à l'information grâce à nous, grâce aux réseaux sociaux, et puis tout cela se mélange, tout cela s'amplifie, tout cela se détourne.
Vous avez cité le CIVIPOF. Le CIVIPOF produit des enquêtes depuis maintenant
dizaines d'années.
Oui, même un peu plus. Et de fait, la crise de la défiance du politique ou de la représentation politique, elle est là depuis un certain temps. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est directement lié à ce qui se passe ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'on est allé, on est au bout du bout du bout. Cette crise, elle a en gros deux grands temps. Une première crise qui renvoie à et qui ne remet pas en cause la notion de représentation, mais qui dit que la représentativité de cette représentation est mauvaise, et donc on a vu, donc on peut l'améliorer par plus de paritaires, par plus de proportionnels, par quantité de choses qui font que tout d'un coup on se sent mieux représenté, et ça ne remet pas en cause la représentation. Et puis il y a quelque chose qui est un pas de plus, et on le voit très très bien, c'est que les gilets jaunes sont très souvent, considèrent qu'ils n'ont pas à être représentés et qu'ils se présentent eux-mêmes. Et d'ailleurs c'est une crise qui est compliquée dans le sens ou quand on leur demande, mais qui parle? Alors, et qui vous représente, il vous dit mais personne, et c'est d'ailleurs comme ça, et on a bien l'intention de rester comme ça. Donc c'est une nouvelle manière de faire de la politique, mais nous, dans nos institutions où nous ne reconnaissons que de façon légitime la représentation, nous avons un sérieux problème d'appréhension de ce mouvement. Alors que, de fait, il a quelque chose aussi de légitime. Mais on ne sait pas comment valoriser cette légitimité.
Je m'adresse à un autre philosophe, Gilles Vervige. Dans ce contexte, le débat, le grand débat national qui va commencer, le débat, c'est l'agora. Peut-il être démocratique quand les passions sont exacerbées comme ça? Grande question philosophique, vous n'avez pas 4 heures.
Et dans un film de Star Wars, il y a un des personnages qui disait le pouvoir du peuple n'est pas la démocratie, ou la démocratie n'est pas le pouvoir du peuple, parce que la démocratie, ça suppose quand même d'être encadré par des institutions.
C'est une normativité.
Voilà,
c'est
pas et l'idée que le pouvoir du peuple, ce serait comme ça, une espèce de souveraineté populaire anarchique, est assez discutable. Alors justement, l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne, ce serait l'idée d'encadrer, d'intégrer finalement cette parole populaire, mais effectivement, si on revendique le retour à la peine de mort, etc., la question c'est de savoir, pour moi, hein, c'est pas aussi une petite manière de gagner du temps, parce qu'une fois qu'on va avoir décidé ce référendum, il va falloir établir les règles, et puis après, la première fois qu'on va vraiment le mettre en œuvre, ce sera pour après 2022,
sans doute. Vous voulez dire qu'on peut gagner du temps. Là, je m'adresse aux journalistes politiques de Marianne.
Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans tout ce mouvement. Depuis tout à l'heure, on dresse un constat assez pessimiste, assez inquiet. Mais en réalité, vous avez fait la distinction défiance de la politique ou défiance des politiques.
Oui, voilà.
On a devant nous un engouement tout à fait nouveau et important pour la politique. Les gens qui manifestent, ces gilets jaunes, ce qu'ils demandent, c'est à refaire de la politique.
Autrement.
Et à participer à la politique de leur pays. À y participer autrement, en effet. Parce que on parle de crise de la démocratie. En réalité, ce mouvement, il montre la grande crise de la Ve République telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne qui va arriver en tête avec un peu plus de 20% au premier tour a de fortes chances de l'emporter au second
et
a de fortes chances
2017,
de gagner, de gouverner ensuite
et
pendant 5 ans.
Et d'avoir un procès en illégitimité.
Voilà. Et c'est pour ça que sans penser à renverser les institutions, etc., on pourrait s'interroger sur la mise en place de périodes de respiration que pourraient constituer en effet ces référendums d'initiative citoyenne qui doivent être encadrés.
On va poursuivre ce débat très intéressant des informés de France Info dans un instant à 20h20. Avant cela, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Emmanuel Grabet.
3 personnes ont été tuées dans l'explosion qui a soufflé une boulangerie du 9e arrondissement de Paris ce matin. Une touriste espagnole et 2 pompiers de 27 et 28 ans, selon un porte-parole des pompiers de Paris. Ils étaient les premiers à intervenir sur une fuite de gaz dans cet immeuble, fuite qui a probablement provoqué la déflagration. Outre ces 3 morts, le dernier bilan fait état de 10 blessés en urgence absolue et 37 autres en urgence relative. 244 personnes, dont 149 rien qu'à Paris, ont été interpellées en cette nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. 74 ont été placés en garde à vue dans la capitale, Paris, où aucun incident grave n'a été rapporté, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui salue l'esprit de responsabilité des manifestants. Météo France met en garde contre le risque d'avalanche demain en Savoie et en Haute-Savoie. Il sera fort, estimé à 4 sur une échelle de 5. De grosses chutes de neige sont attendues cette nuit, notamment dans les massifs du Mont-Blanc, du Chablais, des Aravis et dans le Beaufortin. Le passage d'un seul skieur sur certaines pentes pourrait déclencher une coulée de neige. Et puis la jeune saoudienne de 18 ans coincée en Thaïlande ces derniers jours après avoir fui sa famille est arrivée ce matin au Canada pour y trouver asile. Elle a débarqué à Toronto, accueillie par la ministre des Affaires étrangères. Raaf Mohamed Al-Kounoun explique sa fuite par les abus psychologiques et physiques de ses proches, notamment à cause de sa volonté de renoncer à l'islam.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Nous avons la chance sur ce plateau des informés d'avoir des personnalités qui savent jouer avec les mots, qui savent réfléchir. Et nous avons 2 philosophes, Gilles Vervige. Vous venez de publier en ce début d'année un essai avec ce titre, Un brin de provocation oblige, comme d'habitude, on va dire. Peut-on réussir sans effort ni aucun talent, les mirages du mérite? C'est le titre. Alors pour illustrer le titre de votre livre, il y a cette déclaration hier soir du chef de l'État. C'était devant des boulangers et apprentis à l'Élysée. Écoutez bien le chef de l'État, dit-il, il n'y a rien dans la vie sans effort.
Les troubles que notre société traverse sont aussi parfois dus et liés au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Que parfois on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République, et notre République n'a rien à envier à beaucoup d'autres pays, je peux vous le dire à cet égard, il y a des devoirs.
Alors, je ne vais pas tout de suite vous donner la parole, Gilles et Cynthia. J'ai d'abord demandé au journaliste Étienne Girard votre commentaire sur cette déclaration. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent que l'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté.
Le commentaire politique immédiat, c'est qu'il s'agit là d'une...
Enfin, immédiat, vous avez eu le temps de réfléchir depuis hier soir.
absolument. Mais ça m'a frappé dès que je l'ai entendu dire ça. C'est que ça s'inscrivait dans une stratégie de sa part. C'est que là, on n'est pas dans le cadre du propos volé par une caméra indiscrète. On est dans le cadre d'un discours écrit à l'avance, pas du tout, et d'un propos pas du tout improvisé. Et donc, Emmanuel Macron a voulu là envoyer un message. En plus, il dresse un parallèle.
Mais il n'est pas nouveau, ce message de l'effort.
Il n'est pas nouveau, mais il dresse un parallèle avec les troubles que connaît notre pays. Je le cite, hein. Donc il explique que, en quelque sorte, avant de tout demander à l'État, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, c'est le message d'Emmanuel Macron, avec un clin d'œil d'ailleurs aux électeurs de Nicolas Sarkozy et aux adorateurs de Nicolas Sarkozy. Travaillez plus pour gagner plus.
Bon, alors avant d'entendre nos deux philosophes sur le plateau, la communicante, Céline Boisson.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Étienne Girard. C'était
évidemment. Je fais du teasing hein, pour que nos philosophes réfléchissent.
C'est évidemment voulu et écrit à l'avance. Après, je pense que Emmanuel Macron ne peut pas se retenir. Il est ferme. Il veut tenir le cap. Je ne sais pas si ses conseillers lui ont conseillé justement de dire cela, mais en tous les cas, je pense que même s'il a, on lui a dit de ne pas le dire, il peut pas s'en empêcher. Et du coup. C'est très provocant quand même. La veille de l'acte 9, c'est vraiment un message provocateur, fait exprès.
Dans cette phrase du chef de l'État, je m'adresse aux deux philosophes, je ne vais pas commencer par vous.
mais c'est pas vrai.
Cynthia, comment expliquer cette phrase avec ce mot « effort » qui est important, mais aussi beaucoup trop de nos concitoyens pensent.
Je vais aller dans le même sens, c'est-à-dire que on est tous d'accord hein, sur comment dire, il faut des efforts et c'est même la base en plus de la République. La République a un grand lien avec la méritocratie, mais c'est précisément là-dessus que les Gilets jaunes aussi interrogent le lien de la République et de la méritocratie, parce que bien évidemment c'est aussi cette méritocratie qui est
en
crise.
La méritocratie est au cœur de votre livre, Gilles, on va en parler.
Et merci. Donc l'enjeu c'est qu'est-ce qui est un effort, quelle est la valeur de cet effort et comment sur le marché ces efforts sont reconnus, parce qu'ils ne sont pas reconnus de la même façon. Lorsque vous faites un certain type de métier et vous y mettez un immense effort, c'est pas pour autant que ce métier sera valorisé. Donc on peut faire un grand débat et c'est clair que cette forme de descendance, parce que est-ce qu'elle lui échappe, est-ce qu'elle est là pour provoquer, je ne sais pas, je ne le connais pas assez, mais je la trouve véritablement mal placée. Et effectivement, en amont d'un grand débat sur et qui est important et qui est attendu, j'espère qu'il sera fructueux et pas simplement communicationnel et voulant précisément gagner du temps. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas, c'est particulièrement oui, ça manque un peu de grâce, on va dire ça comme ça.
Gilles Verviche, c'est dans le titre de votre livre, « Peut-on réussir sans effort ?» Le mot « effort » prononcé par le chef de l'État.
Voilà, il me sert la soupe, hein, on peut dire. Mais effectivement, enfin, alors dans le cadre,
c'est la galette des rois,
voilà. Alors en parlant à des apprentis boulangers, on comprend. Enfin, c'est vrai que dans le cadre familial, encourager à l'effort. Mais là, il savait quand même que tout le monde l'entendait. Puis il dit tout. Alors moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il en sait quand il dit trop grand nombre de Français croient que on peut avoir sans. Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il a fait des études? Est-ce qu'il est allé chez eux pour savoir comment ils vivent? Quels efforts ils font?
Ça s'appelle un préjugé.
Voilà. Moi, j'avais noté la phrase que Cynthia Fleury connaît évidemment, Spinoza, qui dit chaque chose s'efforce autant qu'elle peut de persévérer dans l'être. Voilà, donc Spinoza nous rappelle que tout le monde dans sa vie fait des efforts.
Connais-tu
et qui
ça?
Je suis pour juger que l'autre a fait aucun effort. Et c'est effectivement une manière de justifier sa position de privilégié en disant, moi, si je suis là, c'est que j'ai fait des efforts. Si toi, t'en es là où t'en es, c'est que t'en as fait aucun. Et chacun mérite sa place.
Je savais qu'avec vous, on élèverait le débat. mais on va le poursuivre, ce débat, dans 3 minutes. Restez avec nous. On va continuer à parler de l'effort, de la méritocratie, mais pas seulement dans ces informés de France Info. À suivre, la météo, l'info. On se retrouve dans 3 minutes.
Bonjour, c'est la nature qui vous parle. Je ne suis pas en grande forme, mais j'ai enfin une bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, il est interdit aux particuliers de détenir et d'utiliser des pesticides chimiques dans leur jardin. Ça va nous permettre de respirer un peu. Si vous détenez des pesticides chimiques, il suffit de les déposer gratuitement dans l'une des 3000 déchetteries municipales. Pour trouver la déchetterie la plus proche, rendez-vous sur ecodds.com. Ecodds est une société agréée à but non lucratif qui collecte vos déchets chimiques.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
On regarde la carte du ciel avec vous Jean-Michel Golinski, Météo France.
De la neige demain sur le relief de l'Est, à partir de 300 mètres la nuit prochaine sur les Vosges et le Jura, parfois un peu plus bas sur les Alpes du Nord. En journée, la limite pluie-neige va se stabiliser vers 1000 mètres dans le Nord-Est, 800 sur les Savoies, où le risque d'avalanche va devenir élevé à partir de demain après-midi. Et le vent du nord sera d'ailleurs sensible sur les crêtes. Sur le reste du pays, comme aujourd'hui, le bleu sera pour les mêmes régions du sud-est, avec toujours beaucoup de mistral et de tramontane, et un ciel plombé partout ailleurs, temporairement accompagné de pluies éparses et d'un vent d'ouest assez turbulent, des côtes de la Manche au quart nord-est. Les températures partout plus élevées qu'aujourd'hui, sans geler la nuit en pleine, vont grimper jusqu'à 15 degrés l'après-midi sur le bassin méditerranéen, 12 dans la moitié nord et dans le quart sud-ouest, et 8 en moyenne sur les régions du centre et de l'est.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Du côté France Info, il est 20h30, Julien Langlais.
Une cellule d'accueil a été installée par la ville de Paris dans la mairie du 9e arrondissement pour proposer des solutions de relogement aux habitants du quartier réveillés pour certains ce matin par une violente explosion due au gaz, une explosion accidentelle dans une boulangerie qui a tué 3 personnes, 2 sapeurs-pompiers et une touriste espagnole. Une 50aine de personnes ont également été blessées. Le chef de l'État a rendu hommage aux 2 sapeurs-pompiers décédés dans cette explosion. 84 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, davantage selon les organisateurs. La nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes a rassemblé plus de monde que samedi dernier. Plus de 8000 à Paris, plus de 5000 à Bourges, Toulouse ou Bordeaux, mais aussi dans toutes ces villes. Des incidents, des heurts, surtout en fin de manifestation. À Rouen, une équipe de la chaîne d'information LCI a été violemment prise à partie. La chaîne a annoncé son intention de porter plainte. 240 personnes en tout ont été interpellées sur tout le territoire, dont près de 150 dans la capitale. Plusieurs milliers de Serbes ont défilé ce samedi à Belgrade contre le pouvoir du président Vučić, taxé d'autoritarisme par les manifestants qui se rassemblaient là-bas pour la 6e semaine consécutive. Quelques milliers de personnes sont également descendues dans les rues de Nice, dans le sud du pays. La Serbie, c'est l'adversaire de l'équipe de France ce soir pour son 2e match dans le mondial de handball disputé au Danemark et en Allemagne. Après une entame douloureuse mais victorieuse face au Brésil, les Bleus vont-ils se ressaisir? Jean-Pierre Blimaud, vous êtes les yeux de France Info à Berlin, où se joue cette rencontre.
Oui, la partie vient de commencer, 30 secondes de jeu avec d'une part l'équipe serbe à l'attaque là, mais finalement qui vient d'être contrée. Et là ce sont les Français qui récupèrent la balle, toujours 0-0. C'est vrai qu'hier, lors du premier match face au Brésil, l'entrée dans la compétition a été plutôt en demi-teinte. Un match en forme de piqûre de rappel, si l'on ouvre les guillemets, du coach Didier Dinard, qui aimerait bien évidemment que les Français élèvent leur jeu et qui marque d'ailleurs le premier but de cette partie avec ce tir qui va au fond. En tout cas, les Français s'attaquent à un véritable marathon, vous le savez, pour ce premier tour, puisqu'il y a 5 matchs au total. Le premier a été gagné de justesse, le deuxième c'est ce soir. Lundi, il y aura la Corée unifiée qui ne devrait pas poser de problème. Le mardi suivant, il y aura l'Allemagne, ce sera le gros choc avant la Russie le jeudi. Et avec Nicolas Karabatic qui est dans les tribunes puisqu'elle a été rappelée par le staff hier soir.
Merci Jean-Pierre Blumeau en direct de Berlin pour ce mondial de handball et donc ce deuxième match des Bleus face à la Serbie. On suit ça avec vous en direct sur France Info. Et 1 et 2 et 3-0 pour le PSG qui se déplaçait à Amiens ce soir dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 suite de cette 20e journée en ce moment avec Guingamp Saint-Etienne et Nice-Bordeaux. 4 matchs encore demain avec notamment Marseille-Monaco. Et puis en rugby, le Racing 92 a été battu 26-22 par l'Ulster. Défaite aussi de Toulon ce soir 28-17 contre Édimbourg. 20h33 sur France Info, la deuxième partie des informés avec Pierre Neuve.
Les informés, Pierre Neuve.
Et dans la deuxième partie de ces informés, on va parler de la notion de sacrifice. Vous le savez, des pompiers sont morts en intervention ce matin à Paris, mais on va aussi continuer à parler des gilets jaunes, de cette notion d'effort avec nos informés ce soir. Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, avec un autre philosophe, agrégé de philosophie, Gilles Verviche. Vous publiez « Peut-on réussir sans effort, ni aucun talent ?» chez Le Passeur Édition avec Céline Boisson, directrice de l'agence en conseiller communication Nude, et avec Étienne Girard, journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne. Alors, comme on n'a pas 4 heures devant nous, seulement une demi-heure pour terminer cette émission des informés, on va continuer à parler de cette notion d'effort, de réussite, avec vous quatre, de talent. On va essayer de synthétiser. Et pour ouvrir cette nouvelle séquence, je vous propose de remonter dans le temps. On est le 29 juin 2017. Le président de la République, Emmanuel Macron, inaugure un campus de start-up à Paris et au cours de son intervention, il dit ceci.
Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Alors Gilles Verviche, cette phrase ouvre votre livre,
voilà,
c'est le premier chapitre.
J'ai commencé par ça, voilà. Parce que quand
expliquez-nous.
Parce que quand on parlait d'effort tout à l'heure, donc pour parvenir à son but ou réussir, on se rend compte qu'en plus, derrière, la question c'est qu'est-ce que la réussite, et de quelle réussite on parle et à quelle réussite on pense.
Hein.
Voilà. Et là, on découvre que la réussite, pour Macron en tout cas dans cet extrait, c'est donc gagner de l'argent en créant une entreprise. Voilà. Et ce qui fait que c'est un modèle qui devrait s'imposer à tout le monde. Et quand on parle de méritocratie où chacun réussit par ses efforts, le problème, c'est qu'on impose un seul type de réussite, et si tu ne corresponds pas à ce type-là, alors tu es considéré comme un raté. Il dit pas les gens qui n'ont rien, hein. Il dit les gens qui ne sont rien. Voilà, alors c'est comme
je le dis,
les pubs pour les lessives, c'est soit très propre, soit très sale, donc soit tu as réussi, soit tu n'es rien, mais entre les deux, il n'y a rien du tout. Voilà, alors c'est un peu une vision...
Cynthia Fleury.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça lui échappe, visiblement. Enfin, je ne sais pas si ça lui échappe, mais c'est comme ça, c'est ancré en lui. C'est d'ailleurs une des grandes revendications des Gilets jaunes, c'était ça. C'est-à-dire d'abord d'être dans une société du mépris, du dénigrement, de la mésestime, de la condescendance, de la non-reconnaissance. Et quand vous dites à quelqu'un « tu n'es rien », faut être déconnecté du monde pour dire une chose pareille. Parce que bien évidemment, personne n'est rien. Donc, si vous voulez, c'est plus qu'une caricature, c'est plus qu'une facilité de langage. C'est une vraie scission, c'est une vraie déconnexion de notre président avec la réalité des uns, des autres, le simple respect qu'on doit à
autrui. Arrêtons de parler que de notre président. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un d'autre. Et c'est dans votre livre, hein, Gilles. Il s'agit du publicitaire Jacques Séguéla. Dans l'émission Les Quatre Vérités, sur France 2, un matin, on est en février 2009. Jacques Séguéla fait référence à Nicolas Sarkozy, alors président.
Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie.
Bon, ben voilà, vous parlez de réussir sans effort, voilà. Avec du talent, c'est l'illustration, ça aussi?
Alors oui, alors déjà un conseiller en communication qui fait une erreur de communication, il est quand même payé pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent dire ou pas à la télé, et lui, il fait cette boulette-là. Alors effectivement, Macron a dit à peu près la même chose quand il a dit le meilleur moyen de s'acheter un costard, c'est de travailler, donc on est pareil sur à quoi sert le travail, pourquoi travailler, qu'est-ce que la réussite, on est sur une réussite matérielle, voilà, bon, bah, tout le monde a compris, hein, la Rolex, alors il y a eu des blagues, hein, voilà, j'ai pas une Rolex à 50 ans, donc j'ai raté ma vie.
Arrêtez de faire de la publicité, là, s'il vous plaît, parce qu'on est sur une chaîne de service public, donc on va essayer de pas de faire trop de publicité pour cette montre. Céline Boisson.
Faut citer trois marques, je crois, pour pas faire
de stop, alors. Enfin, Céline Boisson.
Bah, c'est quoi la réussite, en fait? C'est pas forcément, enfin, on parle toujours de réussite et beaucoup de réussite matérielle, mais c'est pas ça. On voit bien, enfin, ceux qui réussissent matériellement ne sont pas heureux.
Nécessairement.
Voilà. Comment?
Forcément.
Ne sont pas, oui, ne sont pas toujours, toujours heureux. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont rien, et pas qui ne sont rien, mais qui n'ont rien, ça aurait été plus, moins maladroit, peuvent avoir aussi réussi. Et peuvent vivre aussi le bonheur. Alors, je ne suis pas philosophe, mais...
Non, mais on réfléchit tous ensemble, c'est bien.
On associe souvent la réussite à la réussite matérielle. En tous les cas, aujourd'hui. Dans notre société d'aujourd'hui, il faut s'en détacher. La réussite n'est pas matérielle, la réussite est holistique et globale. Et le bonheur s'obtient de ces petites satisfactions qui sont elles-mêmes des réussites.
Étienne Girard. Sans vouloir philosopher et revenir sur l'aspect politique.
Vous en faites pas, c'est pas mon genre. Oui, vous avez cité toutes les phrases qui sont saisissantes.
Il y en a d'autres encore dans le livre.
Je m'en doute bien, et j'irai le lire, toutes les phrases saisissantes sur
le... Faut pas que je cite de trop, parce qu'après ça va me mettre reproché par le CSA.
Attention. Mais alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que... Emmanuel Macron, il nous explique qu'on n'a rien sans effort. Mais les Gilets jaunes, ils disent exactement la même chose. Ils disent on n'a rien sans effort. D'ailleurs, nous, on fait des efforts. Et, c'est pour ça, et c'est bien pour ça qu'on veut des choses. Emmanuel Macron, il explique aussi que si on a un costard, c'est qu'on a travaillé. Très bien, mais est-ce que ça veut dire que si on n'a pas de costard, c'est qu'on n'a pas assez bien travaillé. Vous voyez, finalement, dans cette affaire-là, qui est d'ailleurs la grande affaire de notre société, c'est-à-dire, est-ce que, comme disait Aristote, à chacun le sien, à chacun revient le sien, est-ce que chacun a ce qu'il mérite? Eh ben, on a le constat est le même, c'est que chacun doit obtenir ce qu'il mérite, mais le diagnostic, finalement la solution à trouver, c'est là que deux camps s'affrontent. Emmanuel Macron, il estime que ceux qui ont de l'argent, c'est parce qu'ils l'ont mérité, ceux qui en ont pas, c'est parce qu'ils l'ont moins mérité. Et les Gilets jaunes, au contraire, eux, ils estiment qu'il y a une injustice dans la société, qui font des efforts qui ne sont pas assez reconnus par la société.
Gilles, un tout dernier mot. Il y a un type qui a raté sa vie, c'est Vincent Van Gogh.
Oui, voilà, je prenais cet exemple-là. Vincent Van Gogh,
il a raté
sa vie. Il disait que ça, avec les femmes, ça marchait pas. Il était malade psychiquement, physiquement. Il a rien vendu ou une seule œuvre, vous le savez. Et puis il est mort, il s'est suicidé tellement il était désespéré. Et puis il est devenu, 20 ans plus tard, un génie. Et puis à l'inverse, je donne l'exemple opposé d'un certain Meyerbeer qui a réussi sa vie et son œuvre. C'était le musicien, le compositeur d'opéra le plus connu, le plus joué au 19e siècle, et puis 10 ou 20 ans après sa mort, il y a son buste sur l'Opéra Garnier, voilà, il est tombé dans l'oubli. Alors la question, lequel des deux a réussi ou pas, ou raté sa vie ou pas,
Je vais renvoyer sur votre livre, on en saura un peu plus. Peut-on réussir sans effort ni aucun talent? On va poursuivre ce débat des informés en parlant du sacrifice humain, du don de soi des héros de notre quotidien que sont par exemple les sapeurs-pompiers. Avant cela, à 20h41, maintenant, tiens, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Emmanuel Grabet.
La mobilisation des Gilets jaunes a tourné par endroits à l'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants à Paris, Saint-Brieuc, Bar-le-Duc, Bordeaux, Toulon ou encore Marseille. À Rouen, une équipe de nos confrères de LCI a été agressée par des manifestants, un acte condamné ce soir par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les deux pompiers tués ce matin dans l'explosion a priori accidentelle d'une boulangerie dans le 9e arrondissement de Paris sont nos héros en ce début d'année. Déclaration d'un porte-parole des pompiers, un troisième membre des secours est grièvement blessé, il est resté enseveli sous les des décombres pendant près de 2 heures. Une touriste espagnole a aussi été tuée dans la catastrophe. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Le réseau électrique français a frôlé la panne générale, le blackout jeudi dernier. C'est ce que révèle aujourd'hui la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau, RTE, a dû demander en urgence à des industriels de réduire leur consommation pour maintenir le système en état. Le Brésil et les États-Unis défient ouvertement le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a entamé la semaine dernière son second mandat après une élection contestée. Brasilia reconnaît le président de l'Assemblée nationale, le principal opposant, comme chef de l'État. Washington appelle de son côté à une transition et à la formation d'un nouveau gouvernement. Et puis les fortunes diverses des clubs français pour cette 5e journée de Coupe d'Europe de rugby. Toulon vient de s'incliner à domicile 17-28 face à Édimbourg. Défaite également de Toulouse et du Racing. Seul Montpellier s'en sort bien après sa très large victoire 45-8 face à Newcastle.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Vous parliez du mot héros dans vos titres, Emmanuel Grabé, justement. Qu'est-ce qu'un héros? Qu'est-ce que le don de soi? Qu'est-ce que le sacrifice humain? Des pompiers sont morts en intervention ce matin à Paris. 3 morts pour l'instant, c'est le bilan de cette fuite de gaz. 3 morts, dont 2 pompiers, 10 blessés en urgence absolue. Cynthia Fleury, le sacrifice, le courage, ce sont les premiers mots qui nous viennent à l'esprit, comme ce mot de héros.
Alors, pas nécessairement, dans la mesure où, si vous voulez, là on a la réalité d'un corps qui est formé collectivement pour ça, c'est-à-dire assumer dans l'urgence, face à la catastrophe, l'aide aux victimes, etc. Et c'est le travail des pompiers. Donc, je dis pas que ça enlève l'héroïsme des pompiers, mais je veux dire par là que c'est une construction totale. L'héroïsme, c'est aussi quelque chose qui est parfois lié à quelque chose qu'on ne peut pas intégralement prévoir. Hein, c'est quelque chose qui va surgir, c'est quelque chose qui est lié à un extraordinaire. Là, on a...
C'est exemplaire, forcément, un acte
héroïque. Voilà, là, on a très clairement de l'exemplarité. Voilà.
Plus d'exemplarité.
Voilà. En tout cas, moi, je le défendrai d'abord comme ça, avec le fait que c'est une exemplarité individuelle et collective, parce qu'elle est fabriquée par, en l'occurrence, la société, et avec ces êtres qui font un travail exceptionnel, dont on oublie, dont on banalise trop, effectivement, sans doute, la chose. Maintenant, voilà, je ne pense pas qu'ils le font par sacrifice, je pense qu'ils le font par sens du devoir, je pense qu'ils le font par fraternité, c'est-à-dire qu'ils ont un certain type de conscience des valeurs, et c'est une forme de geste professionnel, encore une fois, on n'est pas du tout, on est dans de la maîtrise, ce sont des gens qui sont formés pour ça, c'est comme nos soldats, et ils sont extraordinairement respectables, ils sont à protéger, ils sont à respecter, ils sont à valoriser. Après, oui, ce sont des héros du quotidien, dans ce sens-là, oui. Si vous voulez, très certainement. En tout cas, c'est l'héroïsme de la société démocratique.
Gilles Verviche, en philosophie, pour les Grecs, la mort donne un sens à la vie?
Oula. En philosophie pour les Grecs, la mort donne un sens à la vie.
Autrefois, il fallait une mort glorieuse, une reconnaissance publique.
Ah oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est la question.
C'est
la question que.
La belle mort.
Voilà, c'est la question que se pose.
Excusez-moi,
c'était un peu
on
sec.
On se rapproche de la date du bac de philo.
Non, c'est la question que pose Achille, je crois, se pose Achille dans l'Iliade, où il se demande est-ce que je dois partir à la guerre de Troie ou pas. Si je pars à la guerre, je vais mourir jeune, mais j'aurai une gloire éternelle. Et si je pars pas, je vais mourir vieux, je serai heureux.
Sans la gloire.
Mais j'aurai pas la gloire, donc c'est un choix. Mais effectivement, là, quand on évoquait la notion de courage, effectivement, c'est peut-être plus pour des gens qui sont pas forcément formés. Alors le courage, basiquement, ça peut éventuellement se définir comme lutter contre ses propres peurs. Là, on a plutôt des gens qui sont formés. Alors le fait, je pense qu'effectivement, ils ont moins peur qu'ils ont le sens du devoir. Alors ça paraît héroïque pour les autres. Et la question qu'on se pose tous, effectivement, c'est de savoir, nous, les clans moyen dans cette situation, est-ce que je serais capable de faire ce genre de choses? Mais c'est une habitude qui a été prise. Hein, voilà. Effectivement, c'est éminemment respectable. On ne pourrait pas tous s'engager sur cette voie-là. Quoi.
Étienne Girard, le geste, par exemple, d'Arnaud Beltrame, hein, le commandant de gendarmerie, geste, il se sacrifie pour prendre la place d'un otage, geste de courage, de sacrifice, j'emploie le mot, il devient héros.
Je ne pense pas que ce soit un geste de sacrifice encore, mais bon.
Dans le cas d'Arnaud Beltrame, on peut vraiment se poser la question, dans le sens où il a pris un risque énorme. Il savait que sa vie pouvait en dépendre. Mais il me semble ce qui est salué par nos concitoyens. On va reparler de cette étude du CEVIPOF.
C'est le Figaro, oui.
Non seulement le courage, mais il me semble à sa lecture, surtout le dévouement. Et toutes les institutions préférées des Français, c'est celles qui font vivre le plus.
Hôpitaux, policiers, militaires, écoles.
Exactement. Et celles qui font finalement vivre le troisième mot de notre devise, la fraternité. Et à contrario, les institutions les plus dépréciées par les Français, c'est ceux qui ont dévoyé le dévouement, si je puis dire, au premier chef. Les politiques, la politique, c'est l'intérêt général, c'est le service public. Or, aujourd'hui, les politiques, quand on demande un mot à nos concitoyens, le premier mot, selon l'enquête du CEVIPOF, c'est quand même le dégoût. Oui. Donc, ils auraient dévoyé cette idée qui est la belle idée, la grande idée du politique, qui est le service. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on retrouve, d'ailleurs, dans notre société un peu plus. Je pense que c'est ça le sens de tout ça, c'est l'idée du service. Pas se servir, mais servir.
Et de la fraternité, Céline Boisson.
La fraternité et de l'unité. Je pense que c'est ça, effectivement, qu'il faut retrouver. Mais pour revenir au métier de pompier autour du sacrifice, je pense quand même qu'ils acceptent, quand ils vont en mission, et ça leur arrive tous les jours, qu'ils acceptent quand même ils mettent leur vie en danger et qu'ils acceptent de sacrifier leur vie ou en tous les cas leur santé physique à un moment donné. Je pense qu'ils en ont conscience et cette notion de sacrifice, j'ai l'impression quand même qu'elle est très présente en fait dans leur tête, que ce soit des pompiers ou aussi des militaires. Quand on va en mission dans un incendie ou autre, on sait qu'on est en danger et qu'à un moment donné, on pourra peut-être y rester ou être blessé et du coup sacrifier.
Je vois, Cynthia Fleury, qu'on n'a pas le même rapport sur ce mot sacrifice.
C'est vrai que moi, j'ai un rapport qui est peut-être trop marqué par la religion, par le martyr, et qui considère que la notion sacrificielle renvoie à ce type de...
Le don de soi.
Voilà, de don de soi. Alors, il y a un don de soi, mais sincèrement... Je pense que c'était très clair avec désormais le colonel Beltrame. C'est un acte raisonnable, si vous voulez. Ce n'est pas un acte qui... C'est un acte en pleine conscience. En pleine conscience, il prend ce risque. Il a conscience de ce risque. Mais je pense très sincèrement que quand il prend ce risque, il se dit qu'il va pouvoir régler quelque chose. Et il le fait... en compétence. Il ne le fait pas, si vous voulez, en se dessaisissant au moment où il fait ce geste d'une certaine forme de, pas d'espérance, mais bon. Alors après, bien évidemment que il y a le risque sacrificiel qui est là, mais c'est vrai que j'ai toujours à cœur de faire attention avec cela, parce qu'on a d'autres utilisations du sacrifice.
Je
pense notamment aux terroristes, aux djihad, et en aucun cas je considère que les djihadistes qui se sacrifient comme ça sont courageux.
Dernier mot.
Et donc c'est important pour moi de différencier les choses.
Gilles Verlich.
Oui, je pense qu'effectivement, la mort n'est pas une fin en soi. Enfin,
tout
voilà,
à fait.
Il ne fait pas pour mourir et pour donner.
Là, on ferait référence au texte grec, mais
c'est pas
la mort qui part. Voilà.
Aucun cas, c'est la finalité première.
Voilà. C'est pas le fait que je sois mort va avoir un sens. Il prend le risque d'éventuellement mourir dans son devoir, mais voilà. Il voulait pas mourir. C'est pas le but.
Merci d'avoir réfléchi avec nous sur ce plateau des informés. On va poursuivre cette émission avec, vos coups de cœur pour terminer sur une note un peu plus légère et positive dans cette actualité lourde, difficile. Avant cela, 20h50, on fait un nouveau point sur l'info avec vous, Emmanuel Grabé.
12 immeubles du 9e arrondissement de Paris sont interdits d'accès ce soir. Ils menacent de s'écrouler, endommagés par l'explosion, a priori accidentelle, du boulangerie ce matin. La préfecture de police met en place une cellule d'information pour les personnes concernées par la catastrophe au 0805 200 450. Le bilan de cette explosion fait état de 3 morts et 47 blessés. La préfecture de police de Paris qui annonce par ailleurs que 149 personnes ont été arrêtées aujourd'hui dans la capitale pendant la manifestation des Gilets jaunes, 244 partout importantes en France. Les cortèges les plus importants à Paris, 8000 personnes, et à Bourges, près de 6500. 84 000 manifestants ont été recensés au plus fort de la journée par le ministère de l'Intérieur. À Bayonne, ils étaient 9000 dans les rues, mais rien à voir avec les Gilets jaunes. Cortège organisé par l'association Artisans de la Paix. Ils étaient 76 000 à défiler de l'autre côté de la frontière, à Bilbao. Tous réclament le rapprochement du Pays Basque des 265 prisonniers liés à ETA. Un record pour Donald Trump. La paralysie partielle de l'administration fédérale américaine est devenue ce matin la plus longue de l'histoire du pays. Cela fait 22 jours désormais que le vote du budget est bloqué au Congrès. Le président américain menace désormais de passer en force en décrétant une procédure d'urgence nationale. Et puis le PSG, toujours invaincu en Ligue 1 de football. Les Parisiens sont allés battre Amiens 3-0 cet après-midi pour la 20e journée du championnat. À suivre d'ici quelques minutes, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de Guingamp-Saint-Etienne et de Nice-Bordeaux.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
On va faire une petite parenthèse sport rapide dans ces informés, puisque a débuté il y a 20 minutes maintenant à Berlin le deuxième match de tour préliminaire du championnat du monde de handball entre la France et la Serbie. Jean-Pierre Blimaud, le point sur la rencontre?
Eh bien, pour l'instant, les Français ont du mal dans cette partie face aux Serbes. Ils sont menés 7-6. Ils n'arrivent pas à passer devant. Et il y a quelques instants, eh bien, ils ont encore commis leur petit péché mignon qu'ils avaient commis plusieurs fois hier face aux Brésiliens. C'est-à-dire qu'ils ont perdu une balle en situation d'attaque. Il y a eu un contre et les Serbes en ont profité. Alors que finalement, eh bien, les Français ont eu l'occasion juste avant de passer enfin devant cette équipe serbe très regroupée. C'est une équipe qui défend très très bien alors que les Français vont tenter d'égaliser, ce qui est fait à l'instant, mais le but est annulé puisqu'il y aura un pénalty, un jet de 7 mètres. Voilà, l'objectif c'est de faire mieux qu'hier, en tout cas de gagner le deuxième match pour le début de cette compétition. Pour l'instant, c'est très dur, 7-6 pour les Serbes.
Alors on va suivre ça avec vous sur la tête de France Info ce soir. On termine notre émission des informés, comme d'habitude, avec un coup de cœur pour un livre, pour un film, pour une exposition, pour une personnalité, pour une belle histoire. Tiens, Cynthia Fleury, quelle belle histoire, quelle personnalité.
Alors moi j'ai choisi les travaux de Franz de Waal, qui est un primatologue, le dernier de ses ouvrages qui est en tout cas traduit en français, c'est sur les émotions animales.
La dernière étreinte.
Voilà, et c'est vrai que ces travaux sont toujours très intéressants, d'abord pour se rappeler qu'il n'y a pas d'exceptionnalité de l'homme, si ce n'est peut-être du côté de l'obligation d'éthique et de responsabilité, mais en tout cas en termes de rire, en termes de sentiment de dégoût, en termes de sentiment de justice, en termes d'empathie, les animaux partagent avec nous ces merveilleuses émotions humaines. Et donc voilà, donc il y a des exemples entiers sur à la fois les chimpanzés.
Alors c'est ce que l'on peut voir sur l'écran, on va le décrire, c'est les adieux de Mama. Ah une vidéo qui a tourné dans le monde entier, plus de 200 millions de vues. C'est une femelle chimpanzé âgée de 59 ans qui va mourir et qui prend dans ses bras Jan van Roff, qui est son collègue primatologue, pour lui caresser la tête, pour lui faire un baiser. Voilà l'émotion entre une femelle chimpanzé qui va mourir et un homme.
Ben c'est merveilleux parce que voilà, de toute façon tous les signes qui prouvent précisément une fraternisation forte entre les espèces, c'est toujours quelque chose, je trouve, de grandiose. Donc voilà, donc lisez le dernier, je ne sais plus exactement le titre.
La dernière étreinte.
Voilà, et c'est
France
sur les
de Waal.
Voilà. Exactement.
Céline Boisson, votre coup de cœur.
Alors moi j'ai choisi une exposition qui a lieu à la Philharmonie de Paris jusqu'au 27 janvier, c'est comédie musicale. C'est une merveilleuse exposition, une très belle scénographie de Pierre Ginet, où on est immergé dans les comédies musicales, à la fois dans l'explication du montage des comédies musicales, l'écriture, la mise en scène, les décors, les effets spéciaux, puisque on parle de comédie musicale au cinéma, comme un genre cinématographique, et c'est vraiment fascinant. On apprend plein de choses et on se rend compte que c'est extrêmement technique.
Alors, puisque vous parlez de musique, de film, demain dimanche, Maison de la Radio, le Philharmonique de Radio France proposera un ciné-concert, puis en soirée, les grandes chansons du cinéma français, notamment avec Olivier Ruiz, avec Alexis Hachka. Votre coup de cœur, tiens, Gilles Verbich.
Alors, moi, j'ai choisi un voyage.
Un voyage,
j'ai choisi un voyage, une ville... dont je reviens. Je suis allé en Italie visiter, parce que après tout, il n'y a pas que à lire pour former la pensée. Hein, Descartes est parti 10 ans en disant ça m'a formé ma pensée.
Il a fait quelques duels aussi.
Voilà, oui. Mais contrairement aux samouraïs qui font du zen, enfin bref, on en reparlera plus tard. Ravenne, Bologne, parce que c'est moins touristique que d'autres endroits. C'est un peu sur la côte est de l'Italie et c'est très joli à voir. C'est un peu au sud de Venise. Et ce que j'aimais bien dans la ville de Ravenne, c'est une ville qui a beaucoup vécu au 5e siècle. Donc c'est la chute de l'Empire romain et le tout début des barbares, comme un certain Théodoric. Donc à l'époque, on parle de crise de régime, fin de civilisation. Il faut se rendre compte que rien n'est jamais fini.
Merci pour notre guide du retard, Gilles. Le mot de la fin, votre coup de cœur, Étienne Girard.
C'est une série qui s'appelle Babylone Berlin et dont la saison 2 est diffusée depuis 7 semaines en France. Série passionnante et fascinante
sur Canal, on peut le dire. Hein.
Sur Canal+, absolument. ça se passe à Berlin à la fin des années 20, en 1929. Ça parle jamais de nazisme et pourtant ça raconte comment une société s'apprête à basculer. En 1929, Berlin, c'est une ville communiste et pourtant tout annonce le nazisme. La misère, la corruption de la police, la corruption des fonctionnaires. On parle jamais d'Hitler, sinon au détour d'une conversation entre deux étudiants et pourtant il est partout.
Un grand merci à vous, ces informés se terminent. Merci Cynthia Fleury,
merci
philosophe, psychanalyste. Merci Cétienne, Céline Boisson, directrice de l'agence de communication Nude. Merci à vous Gilles Verviche. Allez, merci. Un dernier coup pour votre titre de livre. Peut-on réussir sans effort ni aucun talent? Les mirages du mérite aux éditions Le Passeur. Merci également à Étienne Girard. La une de Marianne, vous en souvenez?
Oui, c'est
la question piège.
Un débat, un grand débat, chiche, mais on met tout sur la table. On vous raconte les sujets importants sur lesquels il faudra se